France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre des Affaires étrangères. Vous avez la parole, amis auditeurs, dans une dizaine de minutes. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Jean-Yves Le Drian, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être ce matin en studio sur Inter. Inédite, les élections européennes l'ont été à plus d'un titre. Avant d'en venir aux résultats français, Jean-Yves Le Drian, dites-nous quelles leçons vous tirez de ce scrutin. Les partis historiques reculent, la poussée des nationalistes est réelle, mais contenue, les écologistes s'affirment également. Comment décririez-vous la nouvelle configuration politique de l'Union ?
Moi, ce qui me frappe d'abord, et c'est un réconfort, c'est que les Européens se sont réveillés. Ce qui me frappe le plus, c'est que la peur de sortir de l'histoire a été surmontée et que on a assisté à une belle démonstration démocratique. Parce qu'il y a eu une participation à ce scrutin qui est beaucoup plus forte que celle qu'on imaginait, mais dans des proportions parfois très spectaculaires.
Ça vous a surpris ?
Oui, et ça m'a réjoui, parce que d'abord le président de la République avait appelé à la mobilisation générale, pas uniquement en France, d'autres acteurs l'avaient fait, et il s'agit là d'une forte mobilisation, d'un sursaut, d'une prise en main de son destin qui se manifeste et qui ne s'était pas manifesté depuis quasiment la première élection du Parlement européen en 1979 au suffrage universel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les Européens prennent leur destin en main et tant mieux. Et pour moi, c'est la principale leçon que je retire de ce scrutin.
Alors, la première manière de prendre son destin en main, c'est de nommer, c'est les nominations qu'on attend dans les prochains jours, et notamment les tractations qui vont bon train pour nommer le président de la Commission européenne. Le président du PPE, vous avez entendu à l'instant Pierre Raski, le président du PPE a été très clair dimanche soir. Nous avons gagner les élections. Ce sera donc le candidat du PPE, Manfred Weber, qui sera le président de la Commission européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, mais il y a une deuxième leçon qu'il faut retirer de ce scrutin. La première, c'est le réveil. La deuxième, c'est la recomposition. Rien ne sera plus comme avant. Jusqu'à présent, il y avait, comme vous le savez, une espèce de condominium entre le PPE et les sociaux-démocrates qui faisait que depuis 1979, la culture du compromis aboutissait à des partages de responsabilités entre les uns et les autres. C'est fini. Et donc, il faut s'habituer à cette nouvelle donne. Cette nouvelle donne, c'est qu'il y a eu une érosion du PPE, une forte érosion des socialistes, et puis l'apparition d'un renforcement du pôle central, auquel la liste de Renaissance en France va contribuer de manière très significative, et puis la poussée des écologistes. Tout ça est une nouvelle donne, à côté de la poussée des
d'accord,
populistes.
D'accord, mais donc, le PPE est donc, en tête, qu'on le veuille ou non, érosion ou pas, ils sont en tête, et ils veulent imposer leur candidat.
Eh bien, on va discuter. L'Europe, ça a toujours été aussi la culture du compromis. Et la culture du compromis, c'est le respect des rapports de force. Et c'est le respect de la volonté commune.
Ce donc, langage diplomatique, pour ne pas dire que vous... Quoi ? Ce sera qui ?
Je ne suis pas le chef de l'État, et je suis convaincu que parce que désormais, la France pèse davantage dans le panorama européen qu'elle ne le faisait antérieurement. Il faut que nous jouions nos propres responsabilités.
Monsieur Barnier, Madame Vestager pourraient être...
On va voir.
Comme on dit maintenant, un homme politique qui ne peut pas parler.
Je suis habitué au langage très clair et très franc. Je dis ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire. J'aime bien Michel Barnier, c'est une réalité. Mais ceci étant, il y a une discussion à avoir entre les différents chefs d'État. Et puis, il faut aussi s'assurer que le Parlement européen valide. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. Et ça se discute, et il faut que la France tienne toute sa place. Mais je pense que le deuxième résultat, je le dis, c'est que la France aura plus de place dans la nouvelle configuration qu'elle n'avait auparavant, plus de force, plus de capacité d'intervention, grâce au score fait par la liste Renaissance de Mme Loiseau.
On retiendra le « j'aime bien Michel Barnier ».
Je le connais depuis tellement longtemps, et j'apprécie ses qualités, mais ensuite, il y a une discussion.
Jean-Yves Le Drian, il faut également remplacer Donald Tusk à la présidence du Conseil. Enrico Letta, l'Italien qui était à votre place hier à ce micro, disait que pour parler à Trump et à Poutine, il faut quelqu'un qui en impose, et lui disait que sa candidate de cœur serait Angela Merkel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On peut tout imaginer. Moi, je ne vais pas me prononcer sur ces postes-là, qui font l'objet de discussions d'équilibre, de compromis. Certes, il faut aux deux postes des personnalités qui ont de la force européenne, de la force de conviction et qui représente aussi désormais la puissance européenne. Parce que je crois que ce qui ressort aussi de cette élection, c'est l'affirmation d'une puissance.
L'Europe, il faut qu'elle ait un visage, c'est ça.
Et il faut l'incarner. Ce que disait Pieraski tout à l'heure est juste. Sans doute n'avons-nous pas eu depuis quelques années une personnalité, des personnalités suffisamment significatives qui incarnaient l'Europe. Et là, avec ce sursaut qui vient d'apparaître, il faut des personnalités fortes.
Encore deux questions sur le Parlement européen. Est-ce qu'il arrive, une grande coalition va donc se préparer au sein du Parlement européen, peut-être avec le PPE. Pascal Canfin disait hier, ici, ce sera le PPE moins Viktor Orban, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que c'est aussi ça, votre position, qui est une position sine qua non, alliance moins Orban ?
Orban a développé une logique de rupture sur les fondamentaux démocratiques de l'Union européenne. Sur la remise en cause de formes de liberté d'expression, de liberté de presse, d'indépendance de la justice, et il est hors des clous, me semble-t-il.
Oui, mais pour l'instant, il est toujours au PPE, il n'est pas viré.
Ben, je ne suis pas au PPE et je pense que le PPE doit faire le ménage.
Ah,
et pas de coalition, en tout cas, avec le PPE, tant que le ménage n'a pas été fait, pour reprendre votre mot.
Oui.
Je dis, le PPE doit faire le ménage, c'est à eux de prendre leurs responsabilités.
Est-ce que les Verts, est-ce que vous appelez les Verts à faire partie de cette grande coalition ? Yannick Jadot, hier également à ce micro, semblait défavorable à ça. Qu'est-ce que vous lui dites ? Est-ce que vous lui dites, il faut que, si on fait une grande coalition, il faut que les écologistes en soient ?
S'il y a une grande coalition, il faut que l'impératif écologiste qui sort aussi de ces élections soit représenté politiquement. Ça, j'en suis convaincu. Mais il est représenté politiquement dans différentes sensibilités, mais il faut que cette force-là qui s'est réveillée aussi pendant ce scrutin puisse s'affirmer et peser sur les choix. Je prends un exemple particulier, mais qui est à mon avis très significatif. Est-ce que, dans la responsabilité du commerce qu'a l'Union européenne, on peut passer des accords avec des pays si ces pays-là ne respectent pas les accords de Paris sur le climat ? Non. Eh bien, il faut le dire et il faut avoir une majorité pour cela. Et on pourrait décliner ainsi.
Ça veut
ainsi
dire que vous allez casser tous les traités signés avec Trump
les
et les États-Unis.
Les nouveaux traités, il n'y a pas de traité avec Trump. On a voté contre déjà pour le fait qu'on ouvre des discussions avec les États-Unis sans tenir compte de l'accord de Paris. Voilà un problème, un angle très fort de ce qui peut être demain une majorité au niveau du Parlement européen.
Allez, venons-en donc maintenant au versant français de ces élections européennes et faisons un tout petit peu de géographie électorale. On sait aujourd'hui que 27% des électeurs de François Fillon, les électeurs du premier tour de François Fillon, ont voté pour vous lors de ces européennes. On sait aussi que 25% des électeurs qui ont voté à gauche pour Emmanuel, 25% des électeurs venus de la gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron sont revenus à la faveur de ces européennes. À la maison, 14% de ces électeurs sont allés voter Europe Écologie Les Verts, 11% sont allés voter Parti Socialiste. Est-ce que vous regrettez que le bloc de gauche, 25%, c'est énorme, soit rentré chez lui ?
D'abord,
et quitter la République en marche.
Ce que je constate aussi, c'est une des leçons de ce scrutin, c'est que contrairement à ce que pensaient beaucoup de responsables politiques de l'opposition, des oppositions, l'élection présidentielle de 2017 n'a pas été un accident. On a pendant longtemps dit « Ah ben, Macron a gagné parce que Fillon avait toutes ses affaires, parce que Hamon n'était pas un bon candidat, et donc c'est le résultat finalement de circonstances particulières ». Ce n'est pas vrai. Et la nouveauté aussi, c'est que la restructuration politique du paysage politique français se poursuit et elle n'est pas finie, à mon avis.
Oui, mais le duopole,
et ça, c'est une nouvelle donne dont il faut tenir compte dans les analyses.
Dans les analyses, toujours, le duopole La République En Marche et le Rassemblement National, aujourd'hui, avec l'effondrement de la droite, il y a un troisième pôle, je ne sais pas si vous appelez ça un triopole, c'est quand même le centre-gauche qui semble se dessiner avec les écologistes et les anciens du Parti Socialiste. Quand vous regardez des villes comme Nantes, comme Rennes, parce que vous êtes breton et vous êtes sensible, oui, notamment à ça, quand vous regardiez les quartiers de gauche à Paris, très clairement, si on additionne les votes écologistes et socialistes et génération, ils sont majoritaires, alors qu'ils avaient voté Macron massivement au premier tour. Alors,
mais
qu'est-ce que vous dites ?
Ils ne sont pas unis. ils sont peut-être majoritaires dans une addition mécanique. Ils ne sont pas unis. Je ne sens pas poindre les efforts d'unification. S'il y avait bien un moment où il fallait s'unir, c'était celui-là, avec le danger du populisme, avec les risques sur l'Europe, alors qu'ils se déclaraient normalement européens, il fallait s'unir. Ce n'est pas le cas. Et par contre, ce qui est le cas sûrement, me semble-t-il, c'est qu'est en train d'apparaître dans la recomposition du paysage politique français, mais pas uniquement en France d'ailleurs, une espèce de grande force démocrate dans laquelle il y a des sensibilités de gauche, des sensibilités du centre, des sensibilités écologistes et des sensibilités de la droite modérée. Cette grande force démocrate est en cours de constitution. Elle va plus loin qu'En Marche, que la dissonance En Marche et du Modem, et c'est sans doute l'enjeu des semaines et des mois qui viennent.
Est-ce qu'il faut que l'aile gauche de ce nouveau pôle dont vous parlez, démocrate, fasse
force, plus que pôle.
Fasse plus entendre sa voix, Jean-Yves Le Drian?
Oui, je le pense. Je pense que cette sensibilité de gauche-là ne s'est pas suffisamment exprimée et qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'attentes à cet égard. Il faut donc constituer cette sensibilité, faire entendre sa culture, ses intentions, ses propositions dans l'ensemble de la force démocrate en constitution qui soutient Emmanuel Macron.
Et est-ce que vous regrettez tout de même que le basculement du socle électoral bascule clairement vers la droite à l'issue de ces européennes pour ce qui est des électeurs d'Emmanuel Macron ?
Il ne bascule pas d'ailleurs tout à fait vers la droite, une bonne partie bascule vers les écologistes. La nouveauté, c'est que à la fin de cette campagne, et c'est une bonne chose, l'impératif écologique est apparu comme un impératif très important et c'est une leçon pour nous, il faut en tenir compte. Et cette force-là d'assurer la transition écologiste doit faire partie des ambitions de cette force démocrate que je vois apparaître.
Et est-ce que vous vous sentez, vous, à l'aise, Jean-Yves Le Drian, dans cette nouvelle configuration dont le centre de gravité, du fait même des électeurs, est en train d'évoluer vers la droite?
Moi, je me suis senti très à l'aise en 2017 pour soutenir Emmanuel Macron, parce que c'était le seul qui mettait l'impératif européen au centre des grands enjeux.
Et deux ans plus tard,
il a mis l'impératif européen au centre des grands enjeux.
Et politiquement, le centre de gravité a évolué.
Ouais, je ne fais pas d'analyse électoraliste là-dessus. Je considère que la logique et la ligne du président de la République depuis le début concernant l'Europe me convient parfaitement. D'ailleurs, je suis ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Et la ligne du président de la République depuis deux ans concernant le reste, c'est-à-dire l'économie, la transition écologique, est-ce que vous lui dites aujourd'hui, ça ne va pas assez loin, il faut aller plus vite?
J'ai trouvé que, après cette grave crise que nous avons vécue, la crise dite des Gilets jaunes, et après le grand débat que le président de la République a initié, auquel il a largement participé, il a fait, ça ne vous a pas échappé, à la fin du mois d'avril dernier, une conférence de presse pour dire comment il retirait les leçons de cette période, non seulement de la période de la crise, du grand débat, mais aussi de ce qui venait de se passer depuis deux ans. Et il insistait sur l'acte 2 de son quinquennat. Et je me retrouve tout à fait dans sa conférence de presse, à la fois sur la volonté affirmée de mettre l'humain et la justice sociale au centre du projet français, à la fois dans la nécessité de réorganiser l'appareil d'État pour être davantage déconcentré, à la fois pour faire davantage de place à la décentralisation, à la différenciation, et aussi pour faire en sorte que l'enjeu climatique soit prioritaire, et en même temps d'assurer le fait que nous avons une force nationale, un patriotisme national, mais qui est un patriotisme ouvert et inclusif à la fois. Je me retrouve tout à fait dans cet esprit.
On va donner la parole aux auditeurs, Jean-Yves Le Drian. Ils ont beaucoup de questions, notamment internationales, à vous poser. Bonjour Marc.
Bonjour Nicolas de Morand, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
J'avais cru comprendre que notre président rangeait la France dans le camp des pays progressistes. Or, il se trouve que la France vend des armes à un pays réactionnaire, si ce n'est médiéval, l'Arabie Saoudite. Et ces armes contribuent au malheur des civils du Yémen, ce que l'ONU a qualifié de désastre humanitaire. Et en plus, la DGSI convoque les journalistes qui ont révélé ces ventes, ce qui n'a pour but que d'intimider tous les journalistes. Alors, en réalité, est-ce que la France, à l'image de sa pseudo-démocratie, n'est pas un pays réactionnaire?
Merci Marc pour cette question, à la fois les ventes d'armes et donc les journalistes convoqués à la DGSI. Jean-Yves Le Drian vous répond.
Sur la deuxième partie, la réponse est très simple. Il y a des documents classés confidentiels défense ou secret défense, on appelle ça des documents classifiés. Et toute personne non habilitée à en avoir la possession est soumise à une poursuite judiciaire de toute façon. Ça arrive d'ailleurs à M. Squarcini en ce moment. Eh bien, ça fait partie de la manière dont l'État doit fonctionner. Et s'il n'y a plus de secret défense ou de confidentiel défense ou de documents classifiés pour assurer la sécurité de notre pays, alors on va dans une situation extrêmement compliquée. Donc je maintiens ce point de vue. C'est pas une
Vous cherchez à intimider potentiellement les sources ou les journalistes, tous les deux.
Toute personne, je demande, toute personne qui n'est pas habilité et qui a des documents secret défense et qui en détient la responsabilité et qui la communique est soumise au droit. Mais et le droit, c'est on n'a pas le droit d'avoir une diffusion de ces documents.
Je voudrais tout de même poursuivre.
C'est pas les journalistes ou quelqu'un d'autre. C'est une réalité.
La question, Marc.
Je vais revenir sur le Yémen.
Dire que tout de même, parce que c'est ça le travail des journalistes, que la France vend
ce
des armes.
Ce n'est pas une chasse.
On a bien entendu. C'est pas une chasse aux journalistes. C'est ce que vous avez dit.
Pour toute personne. C'est comme cela. Dès que vous rompez ce secret défense, vous êtes poursuivi.
Mais dire, et c'est ça le travail de ces journalistes,
Yémen, hein,
voilà, la France vend des armes en Arabie Saoudite qui peuvent...
Ce n'est pas ça le sujet.
Non, mais qui peuvent atteindre des civils au Yémen. Ça, c'est un travail d'intérêt général.
Bien sûr, je n'ai pas contesté.
Donc, à ce titre, c'est un travail journalistique.
Je dis, la publication de documents classés secret défense fait systématiquement l'objet de poursuites, quoi qu'il arrive. Sur le Yémen... Alors c'est une autre situation, mais on ne peut pas parler du Yémen comme cela sans parler de l'histoire du Yémen. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Yémen ? En 2015, le gouvernement du Yémen, issu du printemps arabe, dirigé par M. Hadi, a été renversé par un groupe qui s'appelle les Houthis, armé par l'Iran. Non seulement il a été renversé, mais par ailleurs ont prospéré dans ce même pays à la fois Al-Qaïda, dont on sait qu'il a formé au Yémen ceux qui sont venus nous frapper ici en France, au Yémen, et aussi Daesh. Tout ce monde-là contre M. Hadi. Et en plus, Hadi étant vidé, ces groupes ont attaqué l'Arabie Saoudite par des roquettes, par des missiles.
Donc vous comprenez la position de l'Arabie Saoudite ?
Non. Ah. Je vais jusqu'au bout. Je dis qu'on ne peut pas parler de cette situation au Yémen et des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite sans mettre tout ça dans un contexte. Alors à partir de là, oui... Je dis à notre interlocuteur, c'est une sale guerre. Oui, il faut l'arrêter. Oui, il faut que les Saoudiens et les Émiriens arrêtent. Oui, il faut être extrêmement vigilant sur les ventes d'armes à l'égard de ces pays. C'est ce que nous faisons. Nous sommes tout à fait respectueux d'un traité qui concerne le commerce des armes et qui est un traité international que nous respectons scrupuleusement.
Monsieur le ministre, la tension verbale ne cesse de monter entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump multiplie les déclarations va-t-en-guerre. Il a envoyé il y a quelques jours 1500 soldats de plus au Moyen-Orient, évoquant, je le cite, des menaces persistantes venues d'Iran. À cette heure, Jean-Yves Le Drian, une guerre avec l'Iran est-elle une possibilité ou une probabilité ?
La tension dans cette région est extrêmement préoccupante. Nous avons à cet égard, nous les Européens, nous les Français, mais nous aussi les Européens, puisque les Britanniques et les Allemands sont sur la même position que nous, une position très claire. Il faut lutter contre la prolifération nucléaire. Et aujourd'hui, l'Iran respecte les engagements qu'il a pris lors des accords de Vienne, qui aboutissent au fait que l'Iran ne peut pas accéder à l'arme nucléaire. Et nous sommes co-signataires de cet engagement. Et nous le respectons et nous constatons que l'Iran le respecte aussi. Je trouve que l'initiative américaine d'avoir rompu cet accord est extrêmement dangereuse.
Aujourd'hui, ça, vous craignez un premier
point.
Une guerre.
Alors, il y a eu un deuxième point, c'est que depuis, il y a une surenchère verbale, mais aussi une surenchère capacitaire. Il y a un certain nombre d'actions qui sont dangereuses, qui ont été menées contre des bateaux dans le golfe arabo-persique. Il y a eu des attentats contre des oléoducs en Arabie Saoudite, mais il y a aussi des menaces à peine voilées de la part des autorités américaines. Donc il faut qu'on puisse retrouver le chemin de la discussion. L'Iran a aussi à s'interroger sur lui-même. Et sur le fait que, certes, ils respectent ces engagements, mais ils engagent des processus de déstabilisation de la région. Ils développent des ventes de missiles et des transferts de missiles à des groupes terroristes. Ça, ce n'est pas acceptable, mais il faut qu'on en
Monsieur
parle.
Monsieur le ministre,
et
vous craignez
pas...
une guerre ? C'est un scénario ?
Je ne crois pas que les acteurs principaux le veulent. Je pense que la tension peut aboutir à des accidents.
On repart au standard. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci. Voilà, je voudrais poser une question à Monsieur le ministre. Bonjour, oui. Monsieur le ministre.
Bonjour.
Donc, le 27 février dernier, votre collègue garde des Sceaux, Madame Belloubet, a eu une déclaration par rapport au sort des djihadistes français jugés en Irak, notamment en disant que la peine de mort en France était abolie, enfin que le pays, que notre pays n'acceptait pas la peine de mort, et que si tel est le cas, nous interviendrons pour demander que cette peine ne soit pas exécutée. Donc aujourd'hui, on est au pied du mur, puisqu'il y a 4 Français djihadistes qui ont été condamnés à cette peine en Irak. Donc je voudrais savoir comment la France entend intervenir pour, premièrement, que cette peine ne soit pas exécutée, et éventuellement que ces personnes puissent être jugées en France, où la justice est quand même plus équitable que la justice irakienne.
Merci François pour cette question. Jean-Yves Le Drian vous répond. Est-ce que la position de Nicole Belloubet est toujours la bonne ?
Il y a deux principes qui ne sont pas contradictoires. Le premier, c'est que ces terroristes-là, parce qu'il s'agit bien de terroristes, qui nous ont attaqués, et qui ont aussi été semeurs de mort en Irak, doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. C'est notre position, elle est d'ailleurs partagée par plusieurs pays européens concernés. Et donc, c'est la justice irakienne de les juger. Deuxièmement, nous sommes tout à fait opposés à la peine de mort. Et nous le disons. Y compris sur les 4 personnes dont notre auditeur vient de parler, nous avons fait les démarches nécessaires. Déjà, j'ai moi-même dit au président irakien, le président Saleh, rappeler notre position. Nous sommes contre la peine de mort partout, y compris d'ailleurs aux États-Unis, là où elle existe. Et y compris évidemment en Irak.
Et donc, pour ces 4 Français,
nous multiplions les démarches pour éviter la peine de mort à ces 4 Français.
Et après, s'ils sont exécutés, ils sont exécutés.
Nous, pour l'instant, il n'y a pas eu d'exécution. Il y a déjà eu des terroristes condamnés en Irak.
On est en ligne maintenant au standard avec Jérémy, voilà, pardon. Bonjour Jérémy.
Bonjour, merci de prendre mon appel. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Une question simple, dans le cadre de nouveau Parlement européen là, qui est en train de se mettre en place de la politique de monsieur le président de la République, qui en avait parlé il y a quelque temps déjà, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de profiter de cette refonte pour pousser plus en avant la politique de défense européenne, notamment avec notre partenaire allemand, mais d'autres pays encore plus en avant? C'est peut-être une opportunité de faire en sorte qu'on soit plus cohérent et
bien plus fort. Bien compris, merci Jérémy pour cette question. Jean-Yves Le Drian vous répond.
Je pense que c'est essentiel. Et qu'il faut que l'Europe se dote les moyens d'assurer sa propre sécurité. Et si je disais tout à l'heure qu'il y avait un sursaut européen, je pense que ce sursaut européen doit aboutir aussi au fait que les Européens prennent conscience d'une certaine fragilité de leur propre sécurité et de la nécessité de la mener ensemble. Ça ne veut pas dire de rompre avec l'Alliance Atlantique, mais ça veut dire affirmer au sein de l'Alliance Atlantique une identité européenne forte et une capacité d'agir ensemble. Ça a déjà commencé. J'ai été dans une vie antérieure ministre de la Défense. Lorsqu'on parlait de la possibilité de faire ensemble des capacités de défense, de mutualiser certaines interventions, on nous prenait, il y a encore 4 ou 5 ans, comme de doux rêveurs. Ce n'est plus le cas. Et à la fin du dernier mandat de la Commission européenne, et à la fin avant les élections européennes, ont déjà été engagées des initiatives très significatives à cet égard. Vous avez raison, et c'est une nécessité pour les années qui viennent.
Total débauche, l'ancien conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian, citation d'un titre du Monde. EDF nomme l'ancien directeur de cabinet de Le Drian à la tête du parc nucléaire. Autre titre du Monde, deux nominations, deux transferts vers des entreprises qui sont tout de même stratégiques, Jean-Yves Le Drian. Rien ne vous gêne dans le parcours de ses collaborateurs?
Ils ont le droit de vivre leur vie, non?
C'est la question.
Bah oui.
Venant d'où ils viennent, allant vers ils vont.
Monsieur Lewandowski était mon collaborateur il y a 2 ans, il vit sa vie. Il est à EDF, c'était un garçon de grande qualité, et il est promu à des responsabilités importantes. Et que mon conseiller spécial vive sa vie aussi et dise, après de nombreuses années au service de la République et de l'État, aille prendre d'autres activités ailleurs, ça fait partie de la liberté de l'individu, non? C'est pas votre avis?
Donc pas de problème, non, je vous pose la question.
Bah non, c'est le mien.
Et vous, votre vie, vous êtes toujours bien, ministère des Affaires étrangères.
Ça va très bien. Ça va très bien. Merci.
Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir été au micro d'Inter ce matin.